Bonjour. Alors, grâce au bon soin de Pierre-Yves, vous avez sur la petite feuille verte un peu le plan de ce que nous allons, de ce dont nous allons parler ce matin. Nous avons déjà abordé ce sujet. Et c'est la deuxième prédication que je fais sur ce sujet, qui est comment est-ce que le Christ, est-ce que Jésus a été annoncé par les prophètes, et notamment par les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont parlé, écrit 5, 6, 7, 8 siècles avant Jésus-Christ, avant qu'il vienne. Comment est-ce qu'ils ont annoncé cette venue? Et Jésus a fait cette remarque à ses disciples pendant qu'il était sur terre. Il leur a dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et pourquoi est-ce que ces prophètes ont désiré voir? C'est parce que ils étaient intrigués, un autre texte nous le dit, ils étaient intrigués par ce qu'ils annonçaient eux-mêmes, disant, mais ce que j'annonce, ce que je dis, comment est-ce que ça va se réaliser? Alors, je vous avais, prenez pas peur, je vous avais proposé un petit voyage à travers des routes. Alors, ce sont des routes, je les ai mises sur une carte d'Israël pour faire couleur locale, mais ce sont des routes dans le temps que j'aimerais que nous suivions, et non pas des routes géographiques, hein, j'aurais pu mettre n'importe quel pays, les routes qui conduisent à Jésus-Christ à travers les différentes prophéties. Alors, la dernière fois, nous avions vu la route du Messie annoncée comme le roi, le fils de David. Voilà, c'est cette route-là. Aujourd'hui, je vous propose de voir la route du serviteur souffrant. C'est celle-ci. Et puis, on en verra d'autres. Pour d'autres fois, il faut se laisser du travail pour d'autres fois. Je signale que certains d'entre nous ont protesté, contre le fait, parce que j'ai mis des grandes routes et des petites routes, contre le fait que j'ai mis certaines routes comme petites routes en disant non, ça c'est pas des petites routes, c'est des grandes routes. Comme quoi, il y a des gens attentifs, hein, tout le monde ne dort pas, c'est bien. Je vous propose donc de suivre aujourd'hui la route du serviteur souffrant, qu'on peut appeler aussi le serviteur sacrificiel. Alors, c'est encore Ésaïe qui avait été mis à contribution pour parler du Messie comme descendant de David. C'est encore Ésaïe qui a la tâche d'annoncer ce Messie, non plus comme un roi, mais comme un serviteur, et comme un serviteur qui va souffrir. Alors, à partir du chapitre 40, dans le livre d'Ésaïe, on a un passage d'Ésaïe qu'on appelle le livre de la consolation, tout simplement parce que le chapitre 40 commence par « Consoler, consoler mon peuple ». Et pourquoi est-ce qu'il faut consoler le peuple? C'est parce que ce qu'a annoncé avant Ésaïe, ce sont des souffrances pour ce peuple, le peuple d'Israël, qui à cette époque-là est infidèle, des souffrances sous forme d'une invasion, sous forme d'un exil à Babylone. Et à partir du chapitre 40, Ésaïe console le peuple de Dieu en lui faisant part donc de promesses, et de promesses notamment de libérateurs. Et Ésaïe va construire ces chapitres 40 jusqu'au chapitre 53 comme un roman policier. C'est assez intéressant si vous avez la patience de lire du chapitre 40 au chapitre 53 et de relever tous les indices que Ésaïe donne, et vous verrez que il donne, comme dans un roman policier, des pistes, des indices et des fausses pistes. Au départ, quand on lit ces chapitres 40, il est question d'un consolateur, il est question d'un libérateur qu'on appelle mon serviteur, et il est question d'un empereur. Cet empereur s'appelle Cyrus, qui est nommé alors que nous sommes 200 ans à peu près, avant qu'il vive, avant qu'il naisse. Ce libérateur, Cyrus, est nommé, et il est nommé mon serviteur, et c'est un libérateur politique. On sait que, après l'exil à Babylone, Cyrus a été l'empereur perse qui a permis aux Juifs de rentrer chez eux après 70 ans d'exil à Babylone. Et on connaît, l'histoire nous donne cette date, c'est en 538 avant Jésus-Christ. Et c'est un fait bien, bien attesté dans l'histoire. Et puis un peu plus loin, mon serviteur, c'est le peuple lui-même. Et comme quoi Israël est le serviteur de Dieu. Alors on peut se demander pourquoi il y a des fausses pistes. Parce que si on continue la lecture, on se rend compte que de plus en plus, on laisse Cyrus de côté, on laisse le peuple de côté, et il s'agit bien d'un personnage, et d'un personnage futur qui va venir. Et on se demande pourquoi, sous le même nom, mon serviteur, Ésaïe nous a donné un peu des fausses pistes. Et en fait, si on regarde bien, je vous ai mis ça avec les petites flèches vertes là, c'est parce que Cyrus est quand même quelqu'un qui va ressembler par certains côtés, qui va annoncer par certains côtés à ce que le vrai serviteur va faire, puisque c'est un libérateur. On appelle ça un type, c'est-à-dire quelqu'un qui, par sa vie, par certains côtés, annonce ce que fera Jésus-Christ. De la même façon, le peuple, dans la mesure où il est fidèle, est aussi une préfiguration de ce que sera Jésus. Jésus qui est le chef de ce peuple fidèle. Alors, on va continuer dans notre avancée. Pour l'instant, c'est assez flou. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui ? Bon. On va essayer d'avancer, ça sera moins flou. Quand on arrive au chapitre 42, on arrive à des passages que les théologiens ont appelés les chants du serviteur. Et dans ces chants du serviteur, on va apprendre petit à petit à discerner quelles seront la mission, quels seront le caractère, quelles seront les caractéristiques de ce serviteur. Donc voilà, nous suivons cette route. Donc Ésaïe 42, verset 1. Je vous le dis. Voici mon serviteur, auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. C'est Dieu qui parle. J'ai mis mon esprit en lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas. Entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau broyé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il révélera le droit selon la vérité, il ne faiblira pas ni ne s'esquivera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent à sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, Éternel, je t'ai appelé pour la justice. Je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, les habitants des ténèbres. À mesure que les chapitres passent, la mission et le caractère de ce serviteur se précisent. Il va annoncer, on vient de le lire, il va annoncer la loi, une Torah, comme disent les Juifs. Rappelons-nous Jésus et le sermon sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu feras ceci, mais moi je vous dis. » L'autorité de Jésus qui donne sa loi sur la montagne. Il rassemblera le peuple. Vous savez la prophétie du grand prêtre, prophétie involontaire, qui dit que Jésus devait mourir pour que le peuple ne soit pas dispersé. Et Jean fait un commentaire de cette prophétie, on trouve ça dans Jean 11, verset 52, et il l'a dit en fait, sans le savoir, qu'il fallait que Jésus meure pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ésaïe nous dit aussi que ce serviteur fera revenir le peuple comme pour un nouvel exode. En face de cela, on trouve Jean, toujours en passage de Jean, où Jésus dit « Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il est question, on l'a lu ici tout à l'heure, de faire alliance pour le peuple. Il fera une alliance pour le peuple. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? Dans les paroles de Jésus. Eh oui, ce qu'on vient de voir avec la Sainte Cène, avec le vin, où Jésus dit « Ceci, cette coupe, est la nouvelle alliance en mon sang. » Tout ça fait penser à un nouveau Moïse qui va venir à la tête du peuple, donner une loi, proposer une alliance, proposer une sortie d'un état pour aller dans un autre état. Même si l'état dont il est question là, c'est plutôt un état intérieur, c'est les habitants des ténèbres. Et c'est ce que Jean va expliquer au début de son livre, au début de l'Évangile. Il dit « La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Mais tout ça, ce sont des chants du serviteur, des petits hors-d'œuvre, et je vous propose le plus long des chants du serviteur, le plus connu aussi, que nous allons lire ensemble. Faut de bons yeux. Donc Ésaïe, chapitre 52 et 53, on commencera au verset 13 du chapitre 52. Alors j'ai mis en rouge des mots importants. Il est bien question de mon serviteur. On est toujours dans la route qui nous parle du serviteur et nous cheminons pour le découvrir petit à petit, pour le préciser petit à petit. La première partie semble être un peu un prologue, annoncer la suite. Et ensuite, le texte est en... je l'ai mis alternativement en jaune et en bleu. En gros, en jaune, ce sont les faits, ce qui va se passer. Et en bleu, c'est l'explication de ces faits, leur signification. C'est comme ça qu'Ésaïe a construit son texte. Tenez pas compte du 15 qui est là-bas. Je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu mélangé les pieds dans la diapo, mais ce n'est pas grave. Voici mon serviteur, agira en toute sagesse. On a appelé ce texte, excusez-moi, c'est un petit aparté, l'Évangile selon Ésaïe. Tant il est précis, n'oublions pas que nous sommes 800 ans avant Jésus-Christ, quand il a été écrit. Voici mon serviteur agira en toute sagesse, il sera très haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Je pense que quand Jésus était sur la croix, il n'était pas attirant du tout. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ça correspond quand même bien à ce que notre Seigneur a vécu. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et par le jugement. Je rappelle au passage qu'il y a eu un jugement qui a condamné Jésus, même si ce jugement nous paraît complètement faux et complètement en dehors de la justice, mais il y a eu un jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, mais son sépulcre avec le riche. Quoi qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Je rappelle que Jésus a été inhumé dans un tombeau creusé dans le roc, un tombeau de riche. C'était pas l'endroit où on mettait les pauvres gens. C'était aussi cher d'avoir ce genre de tombeau que d'avoir une belle maison. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et il prolongera ses jours. Après être mort, il prolongera ses jours. Voilà ce que nous dit Ésaïe. C'est une annonce de la résurrection. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. On découvre dans ce texte que la souffrance accompagnera la mission du serviteur, que ça sera même sa mission principale. Il viendra pour souffrir, pour mourir, et cette souffrance aura une fonction de délivrance. On l'appelle le serviteur sacrificiel parce qu'il est dit qu'il s'est livré en sacrifice de culpabilité. Ça ne nous dit rien à nous, Français du XXIe siècle, mais en hébreu, il y a un mot spécial qui est « hacham » qui faisait allusion au sacrifice qu'on offrait au temple quand on était coupable de quelque chose. C'est parce que ce sacrifice a le pouvoir de pardonner les péchés que Jésus nous a acquis le salut et que nous pouvons compter sur le pardon de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on a compris ce texte par la suite ? Ce texte a quand même plongé les Juifs dans la perplexité. Comment concilier le tableau du serviteur souffrant et mourant avec le tableau du Messie, roi, descendant de David, celui qui allait rétablir la justice, qui allait être puissant, qui aurait un royaume merveilleux? Comment concilier tout cela? C'est un extrait du texte que nous venons de lire. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Je vous l'ai mis en rouge tout à l'heure. L'idée du rejeton, de la faible plante, c'était exactement la même image que ce que Ésaïe avait employé pour le roi, pour le Messie, fils de David. Vous vous rappelez, Ésaïe avait comparé la maison de David, ses descendants, à une forêt qui avait été complètement dévastée, abattue. Et il dit, mais un rameau sortira. Et voilà qu'il emploie la même image, non plus cette fois pour le roi, mais pour le serviteur souffrant. Pour Ésaïe, il n'y a pas photo, comme on dit maintenant. Je ne sais pas s'il employait cette expression à l'époque. Pour Ésaïe, c'est le même homme, c'est la même personne dont il est question. Et nous avons donc des routes qui se rejoignent pour faire une seule route. La route du serviteur souffrant et la route du Messie roi, fils de David, qui vont se réunir pour faire une route qui va continuer comme ça, ensemble. Alors, on va quitter un peu Ésaïe, parce qu'il n'y a pas que lui qui a parlé de ce serviteur. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui vivait 2 siècles plus tard, qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel nous dit, chapitre 34, verset 11, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai moi-même soin de mes brebis. » Et j'en ferai la revue. Dans le chapitre qui précède, Dieu a critiqué les bergers du peuple, c'est-à-dire les responsables, les rois, les prêtres, en disant « ce sont de mauvais bergers qui ne prennent pas soin de mon peuple ». Et Dieu fait la promesse que ça sera lui qui va prendre soin directement de son peuple. Comme un pasteur, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai dans tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées. Là, elles reposeront dans un agréable asile, elles auront de gras pâturages. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je vais les paître avec justice. Et il continue un petit peu plus loin, c'est toujours Dieu qui parle, c'est toujours le même passage qui dit « J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger, moi l'Éternel je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. » Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance de paix. Plusieurs choses à dire sur ce texte. D'abord, Dieu dit, c'est moi le bon berger. Titre que Jésus va prendre. Jésus dit, c'est moi le bon berger, c'est moi qui vais chercher mes brebis, c'est moi qui peut aller chercher celle qui est égarée. Et puis, deuxième chose à dire, Ézéchiel emploie le titre « mon serviteur ». David, cette route-là. Donc pour lui, il n'y a pas de non plus photo, comme on disait tout à l'heure. Ces deux annonces du serviteur de l'Éternel et cette annonce du, bon, il dit David pour aller court, mais du successeur de David, c'est bien un seul personnage qui est annoncé. Et ce personnage, on voit qu'il est annoncé comme le bon berger, comme celui qui va fortifier les brebis, chercher celle qui est perdue, penser celle qui est blessée, fortifier celle qui est malade. Et puis, un dernier, on avance dans notre Bible et dans le temps, et un dernier personnage, un dernier prophète, c'est Zacharie. Zacharie, au chapitre 3 de son livre, et qui nous annonce « Je ferai venir mon serviteur, le germe. » Là encore, il parle du serviteur sacrificiel et il emploie le mot « germe » qui est un synonyme du rejeton, de la racine dont avait parlé Ésaïe. Donc, Ézéchiel, déjà Ésaïe, puis Ézéchiel, puis Zacharie vont joindre les deux visions, les deux routes, pour reprendre notre image de tout à l'heure. Pour eux, le serviteur et le roi annoncé sont bien une même personne. Revenons un peu à notre passage d'Ésaïe, qui a beaucoup étonné les Juifs au fil des siècles. Le chapitre 8 des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, nous raconte l'histoire du ministre des Finances du Soudan qui rentre chez lui dans son luxueux véhicule de fonction et qui va trouver en route un curieux autostoppeur. Si vous ne me croyez pas, lisez dans votre Bible, c'est marqué... alors, bon, je ne suis pas sûr que le véhicule soit d'époque. Hein. Que fait cet homme qui rentre en Éthiopie, ce qu'on appellerait maintenant le Soudan, et qui va... Pourquoi il est perplexe dans son char à l'époque, hein. C'est parce qu'il a lu le livre d'Ésaïe qu'il a acquis, qu'il a acheté à Jérusalem au cours de son passage, et qu'il n'en comprend pas. Il ne comprend pas. C'est celui qu'on a lu tout à l'heure. Il ne comprend pas ce passage. Il dit, mais de qui parle? De qui parle le prophète? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Dieu envoie l'autostoppeur qui s'appelle Philippe, qui monte à bord de la voiture, enfin du char, et qui va expliquer à cet homme-là que tout ce que Ésaïe avait annoncé concerne Jésus-Christ et a été réalisé, à l'époque c'est tout frais, ça a quelques mois, a été réalisé par Jésus. Et si vous avez lu cette histoire en acte 8, vous savez quelle est la réaction de notre ministre. C'est de dire, ben voilà, voilà de l'eau. Nous passons à côté d'une oasis, vous voyez, c'est pas fréquent dans ces régions-là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il avait compris. Et il avait compris que si ce qui avait été annoncé avec autant de précision, 8 siècles avant, venait de se réaliser, c'était que, à la fois, le texte qui annonçait était fiable et la réalisation était fiable. Les deux événements se fiabilisaient, se confortaient l'un l'autre. Paul, lui, il avait vraiment compris aussi, et il va expliquer ça aux Philippiens. la mission de Jésus-Christ. Oui, c'est pas très bon le texte, mais mon image était toute petite au départ, alors je l'ai agrandie. Mais... Philippiens 2, chapitre, verset 5. Paul parle de Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. On appelle ça un tableau en U. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et en tout, il montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pour cela que Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Paul avait bien compris que le serviteur qui était annoncé, c'était vraiment Jésus-Christ, celui qui, étant Dieu au départ, était devenu le serviteur et le parfait serviteur, celui en qui Dieu avait vraiment trouvé tout son plaisir, en qui Dieu n'avait trouvé aucun reproche à lui faire, qu'il est allé jusqu'à la mort, c'est ce qui était annoncé par Ésaïe, mais que cette mort n'était pas une fin, mais que la suite était glorieuse. Et cette suite, nous en bénéficions et nous en bénéficierons. Alors, trois conséquences pour nous. Parce que c'est bien beau de suivre les routes, mais il faut voir il faut voir ce que ça nous donne comme conséquence. Ce chant, c'est le premier qu'on a chanté. Vous vous rappelez ? Je ne sais pas si Pierre-Yves l'a fait exprès. Il ne pouvait pas et il ne savait pas. Le premier qu'on a chanté, roi, serviteur. Les deux routes se sont jointes en Jésus-Christ. Celle du roi annoncé, celle du serviteur annoncé. Tu nous appelles tous à te suivre. Trois conséquences pour nous. Une certitude pour notre foi. C'est bien Jésus, le serviteur promis, en qui Dieu a trouvé tout son plaisir, sur qui l'Esprit de Dieu se reposait. C'est bien lui qui a accompli toute l'œuvre que Dieu avait prévue, toute l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire, et particulièrement notre salut, par son œuvre à la croix. Deuxième conséquence, adoration pour nos cœurs. Adorons Dieu pour son plan merveilleux. Adorons Christ qui nous a rachetés. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus l'avait dit à ses disciples en Luc 22. Il leur avait dit, « Moi maintenant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, le serviteur. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Si nous sommes en route avec le serviteur, nous pourrons un jour nous reposer avec le roi. C'est le projet. Et la troisième conséquence, c'est le service. Une telle perspective glorieuse doit nous amener maintenant à être serviteurs de Jésus-Christ et donc serviteurs les uns des autres, à l'exemple de notre Maître. Vous vous souvenez ce passage très étonnant où Jésus va laver les pieds de ses disciples, Jean 13. Et il leur dit ceci, après avoir accompli ce geste, vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Merci.